Radio Couleur Chartreuse vous présente La Saine Cause. Du bien commun, de l'éducation populaire, des rencontres. Tous les jeudis à 20h et les dimanches à 15h. Émission proposée et présentée par André Duny.
Bonjour, eh bien c'est André Duny, eh bien c'est Radio Couleur Chartreuse, c'est La Saine Cause, c'est aujourd'hui un sujet. Toujours dans l'analyse systémique, un petit peu historique aussi, et toujours dans l'idée qu'il y a des alternatives. Hein, les trois aspects. Hein. Un, comprendre le présent par l'histoire, parce que la clé du présent, c'est l'histoire. Comprendre le local par le global, comprendre un thème par ce qui le relie aux autres, cum prendere, c'est prendre avec, et voir dialectiquement les contraires qui s'opposent et les solutions que porte ses contraires, le contraire prend en tête le peuple, contraire au système, le peuple, justement parce qu'il est pressuré par le système. Dans ma précédente émission, on avait commencé par l'espèce de flambée des prix des carburants, la rigueur, les 2 milliards qu'on veut économiser sur les chômeurs, et plus dans la merde, qui font des CDD, des petits boulots qui sont intermittents. Voilà, la rigueur, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a la rigueur. Hein. La rigueur, elle attaque le plus vital. Hein. Vous avez vu le gel des salaires, le non-remboursement d'un fonctionnaire sur deux, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, le prix de la bouffe qui augmente, le prix de l'énergie. Voilà, c'est ça la rigueur, c'est que l'État n'a plus les moyens ou dit ne plus avoir les moyens alors qu'il donne 300 milliards par an. Ou qu'il permet l'évasion fiscale au total de 300 milliards par an. Il y a certainement quelque chose de ce côté-là. L'Europe aussi, elle pratique la même chose, et pire, elle nous dicte ce qu'il doit faire. Alors peut-être pas à 80% comme on l'a dit, mais bien à 50%. Elle a diminué de 75% ses aides alimentaires aux plus démunis, hein. Elle a diminué son aide au programme alimentaire mondial. Là, il y a eu une petite rallonge, mais en gros, dans les années, on va dire 2012-13, elle est passée de 6 à 3 milliards de dollars. On divise par 3 et on laisse les gens crever la faim, alors qu'ils sont passés de 800 millions de personnes en quasi-famine à 1 milliard avec les dernières crises. Pendant ce temps, la rémunération des banquiers français, il bondit, quoi. De 50%. Alors les banquiers, c'est les patrons. Puis les actionnaires, eux, pendant la crise, ils ont... Voilà. Et entre 2007 et 2009, si on reprend l'histoire, hein, il y a eu une hausse de 35% du taux de chômage entre 2007 et 2009, la crise des subprimes. Et les taux de suicide sont parallèles, plus 13% en Irlande, 17% en Grèce. Bon, comme le dit le petit canard, le fakir, on ne mentionne aucun banquier, aucun trader qui ait sauté dans le vide depuis son gratte-ciel. Voilà, alors, deux choses. Un, on se dirige vers un énorme crash financier, mais beaucoup de gens l'annoncent. Et l'art du système, c'est de ralentir, notamment avec les banques centrales, l'effondrement des grands systèmes financiers qui tiennent la planète, qui tiennent nos vies. Alors, première chose, on va commencer par le scandale, mais alors un vrai scandale, qui nous coûte très cher à ceux qui n'ont pas de sous, quand on a un découvert bancaire à la fin du mois. Je pense que ça va vous intéresser parce que c'est à pleurer. La banque facture des commissions auxquelles s'ajoute l'intérêt de découvert. Si découvert est autorisé, c'est-à-dire convenu avec le banquier, le taux peut avoisiner 15%. Donc 15% à rien foutre, mais vous avez 100 euros de dette en dépassement et vous avez 15 euros à payer. Et au-delà du découvert autorisé, le taux sera de l'ordre de 17 à 18%. Vous voyez, la direction du Trésor a fixé à 21% le taux de l'usure. Mais 18%, c'est de l'usure. C'est-à-dire du vol, on vous vole, car l'intérêt, ce n'est rien d'autre que du vol, comme on va le voir. Parce que c'est des gens qui gagnent en dormant. Ils vous piquent votre pognon. Quand on sait que les soldes créditeurs en compte chèque ne sont pas rémunérés. Quand vous avez 1 000 euros de plus sur vos comptes chèques, parce que vous avez réussi à à économiser, que vous ne mettez pas en livret A, ben vous n'avez aucun revenu. Quant au livret A, son taux reste arbitrairement fixé à 0,75%. Je crois que c'est même 0,50 maintenant. Enfin, vérifions que c'est bien 0,75% par le gouvernement. Donc, on peut avoir un livret A et un compte chèque dans le rouge à la fin du mois. Pas de cadeau dans ce cas, la banque rémunérant le livret A au taux réglementaire de 0,75% ou 0,50%, je ne sais plus exactement quel est le taux du livret A actuellement. Ben cette banque, privée bien sûr, prélèvera, puisqu'il n'y a plus de banque publique, prélèvera, outre des commissions d'intervention, un intérêt de 15 ou 18% sur le solde créditeur calculé jour par jour. Les salariés financent ainsi les banques et leurs actionnaires par des milliards de commissions et d'intérêts excessifs qui gonflent les bénéfices de la banque. Et la moitié de ces bénéfices vont aux actionnaires privés, c'est-à-dire aux milliardaires, aux millionnaires, qui ont une part de propriété de cette banque en étant actionnaire de cette banque. Facile à comprendre, hein. 3 ou 4 mettent 1000 euros et font une banque. Et après, la banque, elle fait du bénéfice, notamment sur ce truc-là. Et le reste est des bénéfices, est distribué aux actionnaires, c'est-à-dire à ceux qui ont mis l'argent. C'est pareil pour les cliniques privées. Hein. Vous mettez 100 euros dans une clinique privée à 3, ça fait 300 euros. Vous pouvez mettre 300 millions si vous voulez. Eh ben, c'est pareil, hein. Si vous faites beaucoup d'opérations qui coûtent pas cher, où il n'y a pas trop de réanimation, des trucs qui coûtent cher, mais que ces opérations, vous les facturez à l'acte et qu'elles rapportent le max, et que vous faites payer la bouteille d'eau minérale à 3 euros, comme j'ai vu, c'est pas difficile. À la fin de l'année, vous avez un cash qui vous revient de 10%. Voilà, si vous êtes actionnaire, ben c'est sympa, hein, parce que vous avez mis, 10 millions d'euros, ben, votre cash de 10% vous rapporte 1 million d'euros sans rien faire. C'est le vol. Ça s'appelle le capitalisme. Le capitalisme, c'est du vol. On va essayer de voir ça plus en détail. Donc, cette émission, c'est le crash, la dette et quoi faire d'autre. Voilà, le crash qui arrive, la dette qui en est pour une part la cause, et un système en faillite, que faire? Alors, l'effondrement des grands groupes financiers, ben, c'est un drame qui est en train de se jouer dans notre dos, mais on a beaucoup de mal à le comprendre, puisque bon, je vais essayer de donner quelques données et puis qu'on y réfléchisse. Puisque dès le mois d'octobre 2019, le Fonds monétaire international, hein, qui est une sorte de banquier des pays, tire la sonnette d'alarme au niveau mondial en indiquant dans son rapport que s'il y a un ralentissement de l'activité, 40% des dettes des entreprises dans les 8 plus grandes économies du monde, hein, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, l'Inde, la France, l'Angleterre et je ne sais pas quel est l'autre, peut-être le Brésil, eh ben, serait exposé, hein, si l'activité ralentit. Ben, 40% de la dette des entreprises serait exposée à un défaut de paiement. C'est-à-dire que les entreprises sont endettées à 19 000 milliards de dollars. C'est pire qu'en 2008. Goldman Sachs était endetté et a coulé. Dans les principaux pays, la dette des entreprises hors secteur financier approche les 100% du PIB mondial. Les principaux pays riches, la dette de leurs entreprises approche les 100% du PIB mondial. Je crois que le PIB mondial, c'est entre 50 000 et 60 000 milliards de dollars. Enlevez milliards, gardez 50 à 60 000. Eh bien, autant en dette des entreprises, c'est-à-dire qu'elles ont emprunté pour fonctionner, mais qu'elles ne peuvent plus rembourser, parce que le système capitaliste, comme je l'ai expliqué, ça voit son taux de profitabilité baisser, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taux de profit ne fonctionne plus, parce qu'il y a beaucoup d'argent pour investir dans les machines pour produire plus, et qu'à ce moment-là, on paye aussi des salaires, on paye les machines, et l'amortissement des machines plus les salaires, ça donne un taux de bénéfice qui se réduit comme peau de chagrin. C'est ce qui a été analysé par Marx et qui est toujours valable aujourd'hui. Donc, cette folle course à l'endettement sert à financer, puisque les entreprises sont plus profitables, et ben elles ont emprunté pour faire des opérations financières. C'est facile à comprendre. Hein. Vous êtes une grosse boîte, je ne sais pas, qui fait des croissants par millions par jour, et vous avez du mal, puisque la machine qui fait ça vous a coûté la peau des fesses, vous avez du mal à rentrer dans vos frais. Vous ne pouvez pas doubler, tripler le prix du croissant. Eh bien, à ce moment-là, vous empruntez de l'argent, et avec cet argent, vous spéculez, surtout sur les monnaies, sur le blé, sur... Voilà. Voilà. Et pour quoi faire ? Pour pouvoir rémunérer vos actionnaires, sinon ils fichent le camp. Donc je fabrique des croissants, j'ai une grosse machine qui les fabrique automatiquement par millions par jour, et cette grosse machine, j'arrive pas à la rentabiliser parce que les croissants, on ne peut pas les vendre hors-delà d'un certain prix, sinon les acheteurs fichent le camp ou le concurrent prend le marché. Eh bien, je me retrouve à emprunter et je fais de la spéculation financière pour pouvoir rémunérer les propriétaires de ma machine, de mon entreprise. Moi, je suis le patron, mais les vrais propriétaires sont les vrais patrons, ceux qui sont propriétaires. Voilà, mettons 10 personnes à mis 10 millions d'euros dans la machine. Ces gens-là, ils veulent du cash à la fin de l'année. Ils veulent du 10, 15%. La norme, c'est 15%. Donc, s'ils ont mis 100 millions, ils veulent 15 millions. Voilà. Et donc, pour les rémunérer, ma boîte qui n'arrive pas à tourner, je suis le patron, hein, ma boîte qui n'arrive pas à tourner, ben, je réduis les salaires, je licencie, je prends des gens peu payés, je prends en CDD, enfin tout ce qui me coûte le moins cher, je prends bien sûr toutes les aides de l'État, puisque l'État n'arrête pas d'aider les entreprises, mais j'y arrive pas, j'emprunte et je fais de la spéculation, et tout le monde s'est mis à faire de la spéculation, il n'y a pas que les banques. 123 des 215 groupes ont effectué des investissements de croissance externe, souligne la Banque de France. Et ces trois dernières années, 54% des cas comptent 43% entre 2013 et 2015. La charge de cet endettement devra dès lors être couverte par les revenus futurs dégagés de ces acquisitions. Parce que beaucoup de ces entreprises, outre d'emprunter aux banques pour rémunérer leurs actionnaires, font des fusions-acquisitions, c'est-à-dire elles achètent des concurrents pour pouvoir... Elles achètent des concurrents pour pouvoir garder le max de marché pour elles. Voilà. Alors, tout ça génère une masse de capitaux. Et c'est Sainte BCE chez nous qui produit ces capitaux, qui crée la monnaie. C'est la mère nourricière de l'Europe, comme la Réserve fédérale des États-Unis. Elle crée la monnaie. On a délégué à l'Europe, le soin de créer la monnaie. Avant, c'était la Banque de France, notre banque nationale. Eh bien, au-delà, voilà, elle fabrique l'argent qu'elle prête à rien du tout aux banques. Quand il y a le feu au coffre-fort, comme c'est le cas actuellement, que le système est au bout de son effondrement, qu'il ne peut pas se rémunérer, le capital ne peut pas se rémunérer, bon, outre acheter aussi des œuvres d'art, faire du tourisme spatial pour encore ajouter à ses bénéfices. Il y a mille façons de faire. Hein. Mais à un moment donné, l'argent n'arrive ni à s'investir, ni à faire du beurre. Donc, à ce moment-là, la BCE rachète, elle donne de l'argent aux banques multinationales. Voilà, mais pour éviter l'effondrement du marché des dettes, notamment, pas seulement des dettes des entreprises, je viens de vous en parler, mais aussi des dettes publiques. Et là, elles sont gigantesques. La plupart des pays riches ont en dette plus, largement plus que leur PIB. Par exemple, le PIB de la France est 2,3 milliards. Qu'est-ce que c'est que le PIB ? C'est la somme des valeurs monétaires de toutes les richesses créées en une année. Donc nous, en France, en gros, à 67 millions d'habitants, 24 millions de travailleurs, des circuits financiers, etc., on produit, en gros, tout compris, hein, y compris les accidents, la guerre, quand on fabrique des chars, des avions, ou quand on répare des bagnoles accidentées, ou quand on répare des gens accidentés, ça génère en gros 2300 milliards d'euros. Eh bien, on est endetté à 2600 milliards d'euros, plus que ce qu'on produit en richesse. Donc, la BCE achète, elle ne peut pas prêter aux États directement, mais elle rachète des titres de dette publique. Non, il lui est interdit par le traité de Maastricht à cette BCE, notre Banque Centrale Européenne, de racheter directement des titres de la dette de l'État français ou des dettes de l'État allemand. Mais elle les achète indirectement et à tour de bras aux banques et aux trésoreries des multinationales, c'est-à-dire multinationales et les banques qui ont de la monnaie et qui ont prêté, qui sont prêteuses aux États à des taux d'intérêt limites, parce qu'on préfère prêter à l'État que prêter à une boîte qui risque de faire faillite. Alors aujourd'hui, les taux de prêt sont très bas. Eh bien, encore qu'ils sont très bas, mais savez-vous que la France dépense chaque année à peu près 30 à 40 milliards d'euros pour rembourser juste les intérêts. C'est 2600 milliards d'euros, plus que son PIB, c'est-à-dire son produit intérieur brut, c'est-à-dire sa valeur ajoutée d'une année, tout ce qu'elle produit de richesse en une année monétaire, c'est 2300 milliards. Donc, la banque est venue au secours, parce que tout ça virait à l'effondrement, elle est venue au secours, non pas directement des États, mais elle achète indirectement et à tour de bras aux banques et aux trésoreries des multinationales qui ont des capitaux, et prêteurs, qui prêtent aux États. Voilà, et tout ça c'est pour éviter l'effondrement du marché des dettes publiques et privées. Parce que si on fait la somme des dettes publiques et privées en France, comme les entreprises arrivent à peu près au même niveau d'endettement que l'État, voire plus, on est à 5000 milliards alors qu'on ne produit que 2300 milliards de richesses. Et puis si on regarde les dettes privées des ménages, etc., bien, ça fait aussi un paquet de centaines de milliards. La France, on est un des pays qui avons le moins de dettes des ménages. Mais aux États-Unis, c'est gigantesque. Ça va être une des causes que la bulle boursière va exploser. Il n'y a pas une bulle, mais des bulles, comme dirait Jean Gadret, l'ami économiste de Lille. Le marché global, dit-il, des obligations porte sur un stock de valeur estimé à plus de 100 000 milliards de dollars. Rien que pour le marché actions, 64 000 milliards. Et le volume des transactions sur les obligations, c'est 700 milliards de dollars par jour. En rappelant que si la France, son PIB est 2300 milliards d'euros par an, le PIB mondial, la somme, est autour de 60 000 milliards. Les États-Unis faisant l'essentiel, 15 000 ou 18 000, la Chine 12 000 environ, et puis les autres pays, ben, il y a 200 pays faisant l'ajout de toutes ces valeurs. Vous vous rendez compte que les dettes outrepassent largement cette production de valeur. On va voir comment. Les crédits automobiles aux États-Unis, par exemple, c'est plus de 1100 milliards de dollars en 2018. Non, c'est 1240 milliards de 2018. Il y a des ménages qui ne pourront pas rembourser leur crédit automobile. La dette des étudiants, puisqu'ils payent leurs études empruntes 100 ou 150 000 euros, ou l'équivalent en dollars, et c'est 1500 milliards de dollars. 1500 milliards de dollars la dette. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à la rembourser, les étudiants, parce qu'ils n'ont pas les postes, ou ils n'ont pas réussi. Donc il y a 1500 milliards. Pour les bagnoles, il y a 1200 milliards de dollars de crédit, toujours pas remboursés. Et sur les cartes de crédit, c'est 1000 milliards. Si vous additionnez tout ça, vous avez 2200 plus 1500, 2200, 2700, 3700 milliards de dollars, rien que de crédit, disons, de particuliers. Mais il y en a plus, puisque la dette des entreprises aux États-Unis est supérieure au produit intérieur brut des États-Unis, c'est-à-dire 12 000, je crois, hein, comme je viens de vous dire. Donc le total des dettes des ménages aux USA dépasse donc les 13 000 milliards, si on fait le total de toutes les dettes des ménages. Donc, dépasse le PIB des États-Unis. Rien que la dette privée des ménages. Si vous ajoutez la dette des entreprises, qui est encore plus que cela, plus la dette des États-Unis, vous avez une montagne d'argent qui n'est adossée à aucune valeur réelle. Et c'est de l'argent bulle, c'est de l'argent vent, c'est de l'argent nuage. Le risque, c'est que tout ça finisse par un énorme crash. Et d'autant plus que la dette des entreprises chinoises est pire que la dette des ménages américains. Pire que la dette des entreprises américaines. Bon, les Chinois, c'est, on a dit, pour les États-Unis, en gros, leur PIB. Alors, je me suis peut-être un peu trompé, j'ai dit 12 000, je crois que c'est la Chine 12 000, les États-Unis 15 ou 17 000. Ben, la Chine est un deuxième puissance en voie de rattraper au PIB la puissance financière et industrielle des États-Unis. Je crois que la dette des banques et des entreprises américaines, c'est plus de 30 000 milliards. Donc, on a beaucoup d'argent mis sur le marché de l'argent qui n'a aucune contrepartie. Avant, la monnaie était sur l'or. Tant de billets représentaient tant de kilos d'or. Donc vous aviez une contrepartie à offrir, une valeur réelle. Aujourd'hui, il n'y a plus de valeur réelle à mettre en face de toute cette monnaie qui circule. Voilà. En gros, il y a 2 ans, 3 ans, 700 000 milliards de dollars de fausses monnaies circulent quand la totalité des PIB mondiaux équivalent à 50 000 milliards de dollars, soit 7%. En gros, c'est l'estimation il y a quelques années par un économiste en chef de je ne sais pas trop où, dont j'ai le papier. En gros, 7% seulement de toute cette monnaie circulante est adossée au PIB mondial. 7%, à peine. Tout le reste, 93% de ce qui circule, n'a pas de contrepartie matérielle. C'est de la création monétaire. Quand les actifs financiers censés concrétiser des actifs productifs sont 10 fois la taille des biens mobiliers et immobiliers qu'ils sont censés représenter, alors ça on parle du logement, hein, et que seuls 7 à 8% de ces montants fictifs, c'est de la pure fiction, sont réellement adossés à des valeurs tangibles et monnayables, des immeubles qu'on peut vendre et revendre, il n'y a plus rien à dire et à faire que d'attendre le grand crash. Alors, peut-être vous posez la question, comment est créée la monnaie par les banques, puisque maintenant la Banque de France ne la crée plus, c'est la Banque Centrale Européenne. Mais les banques privées continuent de créer de la monnaie. Comment? Eh bien, si je veux emprunter 1 000 euros, la banque va me prêter 1 000 euros avec 10% par exemple de taux d'intérêt. La banque, elle crée sur mon compte donc 1 000 euros. Elle me donne 1 000 euros. Bon, la banque me donne 1 000 euros qu'elle n'a pas. Donc, elle le met à son passif. C'est 1 000 euros qu'elle n'a pas, mais qu'elle me donne. Moi, je suis endetté. Et qu'est-ce que fait la banque? Eh bien, elle met 1 000 euros en actifs financiers. Elle crée 1 000 euros de monnaie en actifs financiers. C'est-à-dire, sachant qu'elle va être remboursée, elle met en circulation 1 000 euros de monnaie. C'est la loi qui lui permet ça. Hein. C'est naissance des banques à la Renaissance. Des gens avaient de l'or. Des gens venaient déposer leur or, on leur donnait l'équivalent en or, puis après les banquiers se sont rendus compte qu'on pouvait donner beaucoup plus. Il suffisait de donner 10 fois ce qu'on donnait en or, sachant que ça allait tourner, et que, de toute façon, ils allaient se retomber sur leurs pattes. Je m'explique. Une fois que vous avez votre prêt, vous avez vos 1 000 euros, tous les mois vous remboursez avec des intérêts. Voilà, donc chaque mois, si c'est chaque année, vous avez un certain intérêt. Donc, à la fin, mettons au bout de 10 ans, vous avez remboursé vos 1 000 euros et ces 1 000 euros sont supprimés de la banque avec votre créance, avec votre crédit. Mais la banque, elle a empoché entre-temps tous les intérêts que vous lui avez versés. Donc, au Moyen-Âge, ou à la fin du Moyen-Âge, ils savaient très bien qu'en filant de l'argent à ceux qui faisaient un dépôt d'or, les futurs banquiers avec les gages, hein, prêts sur gages, récupéreraient largement, même s'ils faisaient 10 fois la culbute avec l'or, s'ils pouvaient prêter à d'autres ce qu'ils n'avaient pas. Voilà. La banque conserve les intérêts et elle a gagné sur ses intérêts. Ben écoutez, les amis, tout ça, ça s'appelle le système capitaliste. De même qu'une usine pour faire des chemises va emprunter aux banques, mettons, 1 million d'euros, ou mettons 100 millions d'euros pour faire une bonne usine, mettons 100 millions d'euros, c'est le même principe. Elle va créer 1 milliard de monnaie circulante, puisque, en gros, c'est les réserves, ça doit être 10%. Elle peut créer 90% de monnaie qu'elle n'a pas, sachant qu'elle va être remboursée par l'entreprise. Les banques créent l'argent qu'elles n'ont pas, sachant que avec la croissance, elles seront remboursées par les États, par les entreprises ou par les particuliers. Ça marche de la même façon, cette création monétaire. Mais il faut de la croissance. Il faut que l'usine de chemises, elle fabrique assez de chemises vendues, et non pas en stock, hein, mais vendues, pour d'une part rembourser les intérêts, puis ensuite rembourser ce qu'on appelle le principal, c'est-à-dire le montant de 100 millions d'euros. Pour le particulier, c'est les 1 000 euros. Il va rembourser à la fois, dans son remboursement, il y a à la fois les intérêts et puis il y a le principal. Vous voyez ? L'entreprise, elle va devoir donc faire assez de chemises pour rembourser les 100 millions d'euros, plus, si c'est prêté à 10%, plus 10 millions d'euros, donc 110 millions d'euros. La banque aura gagné 10 millions d'euros sur son prêt de 100 millions d'euros. Voilà comment ça marche. C'est un petit peu difficile à comprendre, mais il faut savoir qu'une banque, quand vous lui empruntez 1 000 euros, elle crée 10 fois plus, elle crée 10 000 euros d'argent. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et que c'est accepté de toute éternité, et que l'économie est une économie d'argent-dette. C'est de l'argent en dette qui fait tourner l'économie tant que l'économie tourne. Mais comme elle est en train de se gripper sur toute la ligne, ça a commencé en 1929, puis on a une série de crises, et là on arrive au bout d'une économie qui ne peut plus fonctionner comme cela. Ça s'appelle le capitalisme en crise, ça s'appelle la baisse du taux de profit, parce qu'on a tellement investi dans les machines hyper chères que le taux de profitabilité s'est effondré. Voilà. Pour l'instant, on ne fait que ralentir. Hein, ça fait des années hein, que des gens tirent la sonnette d'alarme. Mais les banques... peuvent compter aujourd'hui sur des banques centrales, la BCE, pour l'Europe, parce qu'elle fournit des taux de rêve. Elles fournissent aux entreprises et aux banques de l'argent bon marché pour sortir de la crise, en disant, grâce à cet argent, puisque vous avez du mal, vous allez pouvoir investir. On crée de toutes pièces, ça s'appelle la planche à billets, on fabrique des billets. Voilà, et... on table sur le fait que ces billets vont permettre un redémarrage de l'économie. Mais c'est peut-être quelque chose de grave qui se prépare.
Picture on my wall.
c'est-à-dire la banqueroute. Et quand il y a banqueroute, eh bien, tout s'effondre et votre carte bleue, vous allez au guichet, il n'y a pas moyen de moyenner. Alors, des gens disent, bah, il faut payer la dette. Alors, voilà, vous avez différents courants, hein, à gauche, à droite, voilà, qui disent, bah, il va bien falloir qu'on paye les dettes. Le Parti Socialiste dit, bah, on va compter sur la solution d'un redémarrage de l'activité en faisant dans la transition, voilà, on va créer, grâce à la croissance, de quoi rembourser. Il y en a qui disent, eh ben, on pourrait faire peut-être un défaut partiel. Qu'est-ce que ça veut dire, un défaut partiel? C'est-à-dire qu'on ne rembourse pas la totalité de la dette. Voilà. Ben, pourquoi pas? C'est arrivé dans l'histoire. Hein. Alors, il faut savoir ça. Hein, que ben, ça, c'est plutôt un côté gauche, France insoumise et tout ça. C'est de faire ce qu'on appelle un défaut de paiement. Alors, toujours l'histoire, hein, qui permet de comprendre. En 1307, le roi de France s'appelait Philippe le Bel, et il a une lourde ardoise à cause des guerres. Hein, il faut payer les armes, il faut payer les soldats. Et avec de leurs gigantesques châteaux, fermes, trésors, les Templiers, banquiers de la chrétienté, hein, ils étaient devenus tellement riches, on leur avait fait confiance. Puis c'était des soldats, c'était des moines-soldats, hein, moines-soldats du pape. Donc on les a fait confiance, ils ont pu acheter des tas de propriétés, construire des tas de châteaux, et ils prêtent à l'État français de Philippe le Bel. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait, Philippe le Bel? Il ne pouvait pas rembourser, parce que la dette, elle était à 20%, enfin, c'était, l'État était ruiné. Lui, il ne pouvait plus faire la guerre, il ne pouvait même plus payer quelques personnes au service de l'État. Il ne pouvait pas payer son armée, pouvait, bon, rien. Eh bien, il a arrêté les Templiers, qualifiés d'hérétiques, et l'en a envoyé au bûcher. Et les finances publiques, ben, elles ont été assainies, puisqu'il n'y avait plus de dette à rembourser, vu qu'on a fait disparaître les créanciers. Et Louis XIV, ben, lui, pour le même remède, c'est son surintendant, Nicolas Fouquet, qui lui devait énormément d'argent. Hein. Vous vous souvenez, c'est un homme mais qui est très très riche. Et ben Louis XIV l'accuse de préparer une rébellion. Il le condamne à l'exil, l'enferme dans une forteresse et confisque tous ses biens. Et voilà, la dette est annulée. Voilà, la France a répudié cette dette en 8 occasions, comme les rois de France avaient pris l'habitude de mettre à mort les grands créanciers nationaux. Voilà, ça s'appelait la restructuration de la dette. Le peuple avait fini par appeler ces épisodes des saignées. Voilà. Alors, il y a au moins 250 saignées entre 1800 et 2009. Ça s'appelle un défaut de la dette. Alors, ça peut être défaut de la dette intérieure quand c'est des gens du pays qui prêtent à l'État, mais ça peut être défaut sur la dette extérieure quand c'est des banques extérieures qui prêtent à l'État. Voilà. L'Argentine, par exemple, début 2002, sous la pression du peuple, le président décidé de suspendre le paiement de la dette et de dévaluer massivement le peso par rapport au dollar. Du coup, il ruine ceux qui ont des pesos, c'est-à-dire les riches, et il permet à l'économie de redémarrer puisque les productions d'Argentine valent moins cher sur le marché, elles sont achetées. Les créanciers, eux, ils perdent 50% de leurs billes, c'est-à-dire de leur pognon, mais l'Argentine, elle et le peuple s'en portent mieux. Annuler la dette peut être une bonne solution. Voilà. Mais la droite, elle dit qu'il faut la payer, la dette. Elle la paye comment? Ben, c'est pour ça que j'ai commencé par l'austérité et par les crédits, les dépassements, les dépassements que vous avez sur votre solde de compte. On se paye à la fois de tous les côtés et par notamment la rigueur. Puisque la rigueur attaque jusqu'au plus vital pour prétendre dûment rembourser la dette. En réalité, la dette, elle est fabriquée par le système qui donne 50% des bénéfices de toutes nos entreprises les plus puissantes aux actionnaires. C'est tout un système. Voilà, j'espère que vous avez compris que la dette est fabriquée par un système qui anticipe des gains et des productions. Et il arrive un moment, ce système ne peut pas payer et c'est des grands crashs. Donc, celui de 1929 aux États-Unis, vous aviez à peu près la moitié des salariés qui ne pouvaient plus être payés, qui ont erré le long des routes. Il y a un excellent film et un excellent bouquin, Les raisins de la colère, qui raconte ces millions d'Américains sur les routes, à la soupe populaire. Le système s'était complètement grippé, il n'y avait plus de rond nulle part. Et bien, c'est ce qui nous pend au nez. Le pire est devant nous, disais-je à l'émission précédente. Hein. Voilà, alors, on peut confisquer, on peut faire tourner la planche à billets. En ce moment, pour retarder l'effondrement, c'est la planche à billets qui tourne. Hein. Ben, les États monétisent leurs dettes en créant de la monnaie. Voilà, je vous l'ai montré. Alors pour là, maintenant, c'est la Banque Centrale Européenne. Elle refuse de prêter directement au pays, mais elle met de l'argent sur les marchés au service des banques à taux zéro, pour que les banques puissent prêter aux États et que les États puissent leur emprunter à un taux réduit. Parce que si vous avez de l'argent à 0%, vous pouvez quand même prêter aux États à 0,1 ou 0,2%. C'est le cas actuellement. La France a un taux d'emprunt assez ridicule, voilà. Mais elle a quand même 30 à 40 milliards chaque année à payer d'intérêts. Parce qu'il y a des intérêts passés qui ont été, qui sont pas soldés. Hein. Il faut, je ne sais pas combien d'années, pour solder le principal. Donc l'intérêt est courant toujours. Tant que vous n'avez pas remboursé le principal, l'intérêt court toujours. Le principal, c'est-à-dire l'ensemble du capital que vous avez emprunté. Donc notre État, notre économie, notre travail sert à engrosser des banques. À raison de 30 à 40 milliards par an. Sans compter bon, l'évasion fiscale, les allègements de charges, où notre argent sert à soutenir la trésorerie des grands groupes privés. Voilà, tout est privé, nous sommes progressivement privés de tout. Tout devient cher, l'énergie est privée, et donc vous la payez, au privé, au prix fort. D'autant plus que l'énergie, ça n'est que la nature, et que la nature, c'est une ressource en voie d'épuisement. Et que depuis des années, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, produire un petit peu d'électricité locale, redistribuer l'économie au local, réutiliser, aller vers une sobriété de consommation, une sobriété de production, des petites unités, enfin bref, ce qu'on vous raconte dans ces émissions depuis longtemps, et qu'on n'a pas fait. Et même d'ailleurs, à gauche de la gauche, on propose toujours des hydroliennes géantes, des éoliennes géantes, etc. Mais ça va faire tourner quoi, ça? La grosse économie? Non, il faut démanteler le capitalisme, et on en parle à une prochaine émission. Et justement, après vous avoir dit que nous avions de l'argent qui était du vol, eh bien, je voudrais vous dire que c'est même pire que ça, et qu'on va s'en sortir autrement. Comment on va faire? Eh bien, si la dette, c'est la tyrannie économique, il ne faut pas s'en remettre à ce qu'une partie de la gauche dise tranquillement « Vive la dette, non à l'austérité ». Dépensons plus pour la croissance verte. Parce que si on a investi dans les hydroliennes géantes, les éoliennes géantes, les machins géants, ça va cracher de toute façon, puisqu'on va encore emprunter pour développer des éoliennes. Une autre partie de la gauche dit la même chose. On va annuler la dette publique et la transformer en dette perpétuelle. Attends, mais hey, on crée de la dette, comme la BCE, et ça, on remboursera que l'intérêt. Et la dette, on la garde pour l'éternité. Oui, mais à la différence de la droite, elle assume tranquillement la violence du capitalisme. Elle dit, rembourser les copains, qui ? Ben, le peuple, travailler plus pour nous rembourser la dette que nous faisons dans notre système. Bon, c'est la tyrannie économique du capital. Rappelons que la seule raison d'être de la dette, c'est le pouvoir, soit un riche, un État ou un particulier qui a des pièces d'or qui dorment dans un coffre, les prête à intérêt à un travailleur. Parce qu'il n'y a que le travail qui crée de la valeur. Pas de travail, pas de valeur, pas de richesse. Il commandera de facto son travail dans une partie des fruits, lui sera légalement volé pour le remboursement avec intérêt. C'est-à-dire, tu travailles pour rembourser 100 euros, mais tu travailles 10% ou 15% de plus rien que pour rembourser l'intérêt. Voilà. Dans les cas extrêmes, il pourra même devenir serf, voire esclave. C'est encore plus fort la dette bancaire. Vous avez une institution riche qui prête de l'argent qu'elle n'a pas, je viens de l'expliquer, elle le crée par un jeu d'écriture, hein, pour qu'il soit remboursé toujours avec intérêt. Toute dette finançant un travail sera commandée, exploitée des travailleurs. Sa violence est telle que dès l'antiquité avait régulièrement lieu des jubilés, c'est-à-dire les annulations de dettes dont je vous ai parlé. Nulle philanthropie dans l'affaire. Les tyrans constataient que l'endettement faisait littéralement crever de faim la population. Pour la préserver, parce que vous ne pouvez pas faire la guerre sans soldats qui crèvent la faim, vous ne pouvez pas manger si vous n'avez pas des paysans qui crèvent la faim, qui vous font à manger. Donc, on l'effaçait, l'exploitation repartait, j'en ai pris quelques exemples. Donc, avec la crise du Covid, les dettes publiques et privées ont explosé. La France, plus de 200 milliards de dettes de plus. Y a-t-il une limite à l'endettement des États ? Aucune, nous dit de brillants économistes, y compris de gauche. Les États ont une vie infinie, tirons sur la planche à billets. Eh bien, écoutez les amis, qu'importe pour nos néo-intellectuels, l'être suprême et immortel qu'on appelle l'État peut s'endetter sans compter, mais ça va nous retomber dessus, ce qui s'appelle faire rouler la dette. Je rembourse grâce à un nouvel emprunt pas cher. Toutefois, les intérêts doivent toujours être honorés. Pour l'instant, tout va bien. La France a un taux de 0,1%. Et le jour où le système commence à encore plus mal aller, les banques vont dire « Ah non, 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 la France, vous n'êtes pas bien, on va monter ce taux. » Et l'intérêt de la dette sera plus de 30 milliards. Et risque d'être 60 milliards. Alors là, mais tout le monde est pressurisé. La sécurité sociale ne doit pas dépasser 14% du PIB. On fera départ à la retraite à 67 ans. Il y a un type de droite qui dit 67 ans serait le bon âge pour partir à la retraite. Je rembourse grâce à un nouvel emprunt. On fait rouler. Les intérêts, cependant, doivent être honorés. Deo gratias, les taux d'intérêt sont bas. Et grâce aux inégalités sociales, les riches sont de plus en plus riches et épargnent beaucoup pour leur vieux jour. Et cette épargne conséquente, un bonheur venant jamais seul. Et sans non, les investisseurs n'en veulent pas, car les taux de profit industriel étant proches de zéro, où investir tout ce pognon ? Voilà. Alors, on fait baisser les taux d'intérêt de la dette publique, ne nous coûte que 30 milliards aujourd'hui, ou 40 milliards, disais-je. Mais un vol aussi bon marché réjouit des gens comme alternative économique. Profitons-en et allons-y encore pour relancer la croissance verte et la transition verte. Une telle violence sociale en fait tout sauter quelques-uns, mais quand même au nom de sa dette, 70 milliards que la sécurité sociale, désormais étatisée, va encore appauvrir les chômeurs. Là, je l'ai dit. Donc pas rembourser des chômeurs au chômage. Moins. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Annuler les dettes publiques. On a vu cette solution. Pas question de toucher aux dettes privées. Donc, les paysans se suicident, les PME sont étranglées et le chômage arrive, puisque c'est les PME qui font l'essentiel de l'emploi. Seule la dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne est concernée. Pas touche donc aux intérêts des parasites capitalistes privés. Ensuite, ces sommes doivent être réinvesties dans la croissance verte. Est-ce à dire que c'est leur transformation en dette perpétuelle sans intérêt ? Il n'est jamais question d'abolir la logique même de la dette et donc le pouvoir politique des créanciers, c'est-à-dire des capitalistes. Comment pourrions-nous reprendre en main notre destin dans ces conditions ? Et on voit que la gauche est soumise à la tyrannie du capital. Partager le gâteau, disais-je à la précédente émission, et là, soit rembourser la dette, soit créer de la monnaie à tour de bras jusqu'au crash. Nous pouvons éliminer tout le pouvoir des créanciers, je termine là-dessus, tout le vol des intérêts en finançant sans dette les travaux utiles et beaux, comme par exemple aider aux ceintures vertes autour des villes, faire de la petite énergie locale avec des petites turbines, des biodigesteurs, etc. Parce que si on fait beaucoup de ceintures vertes, on aura beaucoup de déchets agricoles. Donc une partie du carbone, au lieu de mettre sur les sols, on pourra faire un peu de gaz. Et une voiture à gaz, c'est 10-15 fois moins de pollution qu'une voiture électrique. Une voiture au biogaz méthane. Biogaz, hein, pas de déchets, hein, du biogaz, de déchets agricoles bio. Ou de forêt, peut vous faire rouler quelques bagnoles. Moi, je préférais que ça fasse rouler des petits tramways ou des petits bus au gaz, 10 fois moins producteur de CO2 qu'un bus électrique, et surtout si c'est hydrogène. Mais on fera une émission sur l'énergie. L'argent que doivent les entreprises au nom de la dette, si nous prenions le pouvoir, si le peuple se mobilisait, serait désormais investi dans des caisses d'investissement. Voilà une solution de sortie du capitalisme. On oblige que l'argent des entreprises, que l'argent que doivent les entreprises, leur dette, qu'il soit versé dans des caisses d'investissement gérées par des mandataires élus par la population. Ceux-ci décideraient de financer sans remboursement, sans intérêt, tel secteur d'activité, telle entreprise, telle communauté de communes, telle commune. Vous entendez bien ? La vente des marchandises donnerait lieu à un nouveau flux d'argent, à de nouvelles cotisations et à un nouveau financement. Nous pourrions enfin nous engager dans la décroissance économique des grands groupes industriels en arrêtant de financer des travaux nuisibles comme le Lyon-Turin ou l'EPR. Abolir l'endettement pour financer le travail, c'est donc assumer nos obligations morales et politiques à la place des créanciers. Comme il n'est pas sûr que la gauche le comprenne avant l'an 3000, il faudra bien que ce soit le peuple qui le décide. Parce que les partis politiques n'en sont pas encore là. Je répète, nous pouvons éliminer tout le pouvoir des créanciers capitalistes, tout le vol des intérêts. L'intérêt, c'est le vol. Le vol de votre travail, de votre temps. Parce que ce soit pour votre déficit de compte à 17%, ben vous êtes obligé de travailler 17% de plus de temps. C'est vol de temps et de travail. Tout ça pour des intérêts privés. L'actionnaire de la banque, lui, il ramasse le pognon. Hein, vous bossez plus. L'argent que doivent les entreprises au nom de la dette serait intégralement et désormais, si le peuple en décidait, versé dans des caisses d'investissement publiques gérées par des mandataires publics. Moi, je souhaite que ce soit le plus possible municipal ou régional ou en tout cas territorial. Ceux-ci décideraient de financer sans remboursement, sans intérêt ou tel, l'activité... Voilà, ce serait des banques sans intérêt. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme la sécurité sociale. Vous faites un hôpital, vous n'en prêtez rien aux banques privées, rien à personne. Vous avez le pognon des cotisations, hein, vous avez 20 millions de personnes qui cotisent. Eh bien, ce pognon, vous faites un hôpital, point, terminé. Bien sûr que le constructeur de l'hôpital, si c'est une entreprise avec des capitalistes, c'est-à-dire des actionnaires, va redistribuer aux actionnaires. Voilà. Ben, j'ai tout dit. Si vous avez compris quelque chose, hein, on peut peut-être continuer de réfléchir à ce système de la dette. Vol. Ah ben, le vol. Vive des caisses publiques. Type sécurité sociale, où on déciderait que l'argent que doivent les entreprises au nom de la dette privée, comme peut-être de la dette publique, serait versé dans des caisses d'investissement gérées par la population. Merci beaucoup. C'était André Dunis, c'était la saine cause, c'était le sujet à quand l'effondrement, à quand le crash, et quand qu'on ne rembourse pas la dette, mais qu'on la récupère pour faire des caisses d'investissement aux mains de la population. Au revoir.
C'était la saine cause pour un bien commun et un monde vivable.